Radio Capi, grand témoin.
Il est président de la Fédération Congolaise de l'Or et du Diamant. Albert Kalonji Sendula Molokwe est aujourd'hui l'invité de grand témoin. Albert Kalonji, soyez le bienvenu.
Merci beaucoup.
Vous avez une grande expérience de plus de 20 ans dans l'exploitation du diamant. Au cours de cette émission, nous ferons aussi le point sur l'exploitation et la commercialisation du diamant en RDC. En ce qui vous concerne, vous voyez le jour à Kikapa, au Kasai Occidental, le 30 juillet 1960. Kalonji Molokwe Nsendula, que signifie votre nom?
Mon nom veut dire Kalonji, c'est un peu colérique, c'est ça, Kalonji. Et puis Nsendula, fourmi qui ravage tout à son passage, mais qui est très intelligent, qui garde les réserves pour une longue durée dans les trésors. Et puis Molokwe, c'est-à-dire grand chef.
Vous faites vos études primaires à l'école primaire Saint-André de Kikapa et c'est dans la même école que vous faites vos études secondaires en option littéraire. Parlez-nous de votre enfance.
Mon enfance a été ce qu'elle a été, mais je suis très content puisque mes parents m'ont encadré dans une bonne école catholique, d'où moi-même je suis praticien jusqu'à présent. Et puis, l'école primaire catholique, l'école secondaire catholique, dans une école qu'on nous enseignait par Deblanc. Alors, je pense que j'ai été bien encadré.
Vous êtes né dans une famille de combien d'enfants?
Des 10 enfants, 5 garçons et 5 filles.
Et vous êtes le 30e?
Je suis le 6e de la famille.
Quel genre d'enfant étiez-vous?
Un enfant comme d'autres, c'est très difficile de parler de soi. Je préfère que les autres parlent de moi, mais j'étais quand même un enfant avec toute la distraction, avec
un bon,
les caprices.
Un bon joueur de football, un grand sportif.
Oui, je faisais aussi les karatés, j'ai joué aussi au foot, avec tout amusement qui entoure l'enfance en fait.
Une enfance heureuse donc.
Je peux dire oui.
Rappelez-nous quelques noms d'amis d'enfance que vous avez encore à l'esprit.
Monsieur Chimama Chimley, Laurent, Kalumba Keita, Chipamba Chikle, Chikonda Fonchi, beaucoup d'amis comme ça. Et puis l'autre parlementaire maintenant, Kambala Robert. Donc on a grandi dans une famille élargie au fait.
Kikapa, on le sait, c'est une zone minière. À quel moment avez-vous pris goût à la commercialisation du diamant?
À 1980.
À 20 ans donc.
À 20 ans d'âge.
Et comment vos parents jugeaient votre amour pour le diamant avec les études, tout ça?
Oui, mais c'était juste les études, puisque les amis qui m'ont connu, nous étions parmi les lauréats de l'école, parmi les 5 premiers. Donc on me disait c'est les études ou rien. Mais moi, j'ai tenu bon, je leur ai dit, je peux faire le dé ensemble, comme je viens d'accrocher mon diplôme, je peux faire aussi autre chose en dehors de ça avant que je voie les études universitaires. C'était un peu difficile pour les convaincre dans ce sens-là, mais ils ont fini par opter pour ma position et maintenant ils me donnent raison.
Que répondez-vous à ces personnes qui pensent que l'exploitation du diamant est un frein à la scolarité de beaucoup de jeunes dans les zones minières?
Non, nous ne croyons pas que c'est comme ça. C'est pas un frein, mais le problème c'est quoi? Même ici, il y a les enfants qui ne sont pas scolarisés, ça ne veut pas dire que Kinshasa est une ville diamantifère, je ne crois pas. Donc ça dépend de ce que le parent veut à ce que leur enfant soit. Tant que c'est pas les diamants, c'est pas les activités connexes qui peuvent désorienter quelqu'un de sa ligne de conduite, je pense.
Les études universitaires, c'est plus tard, pratiquement en 2000, que vous obtenez votre graduat en français à l'Université libre de Bruxelles en Belgique. Qu'est-ce qui vous a poussé à reprendre les études près de 20 ans après, hein?
Oui, mais j'avais pensé que c'est bien d'être plus intellectuel, avoir une activité à côté, c'est bien, mais si on a une qualité intellectuelle plus poussée, ça va aussi vous aider à bien diligenter vos affaires.
Et pourquoi vous avez opté pour le français et pas pour l'économie ou autre chose?
J'aime bien la langue. La langue de Molière, je l'aime bien.
J'aime d'entreprise, dirigeants des institutions publiques et privées, responsables des syndicats, acteurs sociaux, découvrez les activités, les fonctions, mais aussi la personnalité de ces hommes et ces femmes qui façonnent la République démocratique du Congo d'aujourd'hui et de demain dans Le Grand Témoin, chaque samedi et chaque dimanche à partir de 7h, heure de Kinshasa.
Albert Kalonji Sendola Molopwe, président de la Fédération congolaise de l'or et du diamant. Depuis 1999, vous dirigez la Fédération congolaise de l'or et du diamant. Pour les profanes, comment différencier une pierre ordinaire d'un diamant?
Je suis le président AI. Depuis la création de la FECODI, j'étais le premier vice-président. Et puis il y avait le président titulaire qui est Alphonse Ngoy-Kassanji qui est devenu gouverneur maintenant. C'est pourquoi je dis que je suis président AI, puisque moi je suis quelqu'un qui a le respect pour les autres, donc je vais me placer là où je suis reconnu en tant que tel. Par exemple, j'assume l'intérim puisque son excellence est devenu le gouverneur maintenant. On n'a pas organisé d'autres élections, alors je ne peux pas avoir des ambitions de me dire que je suis le premier président, non. Comment différencier la pierre non commerciable à la pierre diamant? C'est comme ça, vous savez, quand on est créé, nous rentrons à la Genèse, on dit l'homme est plus attaché à la terre. Donc je crois que moi je suis soutiré de cette terre-là, les atomes que j'ai correspondent avec les atomes du diamant. C'est pourquoi on est plus attaché à cette pierre-là. Il faut être du domaine, il faut aussi que vous ayez la révélation de Dieu. Puisque il n'y a pas longtemps, il y a les gens qui m'ont amené des pierres non commerciables à la maison. Ça venait de Mbandaka. Les gens ont travaillé d'arrache-pied. Ils m'ont même dit qu'il y avait les autres qui avaient trouvé la mort, les autres étaient blessés. Mais pour avoir des pierres non commerciables, vous comprenez? Donc il faut que Dieu vous révèle. C'est une pierre qui a la sagesse derrière elle, en fait. Donc il faut être initié pour connaître cette pierre. Initié pas nécessairement, mais si je vous dis que c'est une révélation, c'est la bonté de Dieu qui tombe sur le peuple, surtout Kassaïen. Que répondez-vous à ces personnes qui pensent que pour trouver le diamant, il faut avoir des fétiches? Non, nous ne croyons pas à ça, puisque ça, ce sont des illusions que les gens se font. Vous voyez, il y a même les musiciens ici. Quand vous suivez les musiciens, ils disent à Simbigwa. Non, mais c'est le travail bien fait qui amène quelqu'un à prospérer. Ce n'est pas des fétiches. Ça c'est, ce n'est que des mots pour désintéresser les gens à faire mieux ce qu'ils sont en train de faire.
La Fédération congolaise de l'or et du diamant a des représentations provinciales, mais pourquoi ne fonctionne-t-elle pas bien?
Elle fonctionne bien, mais pas très bien. Pourquoi pas très bien? Puisque à cette période où il y a la crise, et c'est nous qui sommes le premier à être frappés par cette situation, les gens ne peuvent pas contribuer convenablement puisque toutes les activités sont au point mort.
Alors quelle est la contribution de la Fédération congolaise de l'or et du diamant au budget de l'État?
Nous contribuons à 3/4 sur toute la production du diamant en République démocratique du Congo.
En termes de chiffres, c'est combien à peu près?
Donc, si vous prenez 80 millions de dollars, vous allez faire les 3/4 des 80 millions, puisque le 20 millions, c'est juste l'AMIBA qui le fait. Le reste, c'est nous qui le faisons dans le secteur artisanal.
Vous êtes commerçant et négociant d'or et de diamants. Quel parcours doit suivre un diamant quand il quitte la terre, en fait?
À partir de l'exploitation, quand le diamant est trouvé, selon les codes miniers, ça doit suivre plusieurs paliers avant d'être exporté. Mais il y a des cacophonies à ces niveaux-là. Quand ça quitte le creuseur, ça doit arriver aux négociants. Des négociants de catégorie B et A, et puis comptoir agréé, exportation.
Il y a combien de catégories de négociants, en fait?
Avant, il y en avait 3, mais maintenant c'est 2. Donc, c'est-à-dire les négociants qui achètent auprès de creuseurs pour vendre au comptoir agréé. Et il y a les négociants qui achètent des chantiers en chantier pour vendre aux autres qui sont de la catégorie B. Et ceux de la catégorie B vendent au comptoir agréé. Et puis, les comptoirs agréés font l'exportation.
Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous êtes confrontés, vous, commerçants et négociants?
Plusieurs difficultés, puisque le champ d'exploitation n'est pas respecté. Puisque nous venons de le dire maintenant que nous contribuons à 3/4 de toute l'exploitation du diamant en République démocratique du Congo. Donc, nous pensons que notre secteur mérite d'être soutenu. Mais il n'est pas soutenu. Pourquoi? Puisqu'il y a la confusion totale. chaque intervenant ne fait pas son travail comme il se doit. Vous savez que c'est un secteur qui a beaucoup d'enjeux et puis il n'y a pas les champs d'exploitation pour les trésors. Nous l'avions demandé depuis tout le temps, nous avons crié partout, on nous a entendu. L'actuel ministre des Mines a créé des zones à exploitation artisanale, mais l'information ne sort-il pas? On bloque l'information par les gens qui sont autour pour faire la vulgarisation, pour que le peuple sache à tel niveau ses limites, ma responsabilité, à tel niveau je peux faire telle chose. Donc, la vulgarisation ne passe pas. Alors, nous avions demandé, non, au niveau de la FECODI, pour qu'on nous donne les zones qui sont instituées aux zones à exploitation artisanale, pour que nous mettions ces zones-là à la disposition de nos creuseurs pour augmenter la production. Mais il y a des blocages partout.
Et le problème de taxes, vous payez $500 de taxes forfaitaires par an, mais pourquoi vous vous plaignez de surtaxes?
Nous avons une taxe forfaitaire annuelle de $500. Là, c'est pour accéder au métier. Mais de toutes les transactions que nous faisons, nous payons le pourcentage à l'État. Comment ça se passe? Dès que je vends dans les circuits officiels et que je signe ma facture, à la source, on retient la taxe de l'État, qui était avant de 3% et maintenant elle est de 7%. Alors, cette taxe-là, qui est retenue à la source, que le comptoir va verser dans les trésors publics, ou bien auprès des mandataires de l'État, ce n'est pas les comptoirs qui payent. C'est le négociant qui a vendu auprès du comptoir qu'on a donné l'obligation de retenir cet argent-là pour verser auprès des mandataires de l'État. Donc, la taxe est passée de 3% à 7%. Vous comprenez, c'est 110%. C'est trop exagéré.
En 2000, le défunt président Laurent Désiré Kabila met en place la BCMP, la Bourse Congolaise des Matières Premières, où d'ailleurs vous étiez le seul Congolais à souscrire et à libérer vos capitaux. Quels sont les avantages d'une telle institution?
Quand Mouzé avait institué la BCMP, il nous a dit que ce n'est pas le moment d'arroser le champagne. C'est plutôt le moment de commencer à travailler d'arrache-pied, puisque nous aurons le combat de toutes parts. Et nous l'avions compris, puisque les gens ont combattu la bourse de toutes parts. Vous savez, en instituant la bourse du diamant ici au Congo, c'est-à-dire l'effacement de plusieurs intervenants qui ne sont que
des intermédiaires
entre nous et d'autres bourses du monde. La dimension de la bourse, je ne vois même pas la banque. Quand on parle de la bourse du monde, on ne parle pas de la banque. Toutes les valeurs qu'on a dans des bourses, ce sont des valeurs faramineuses.
Malheureusement, la bourse a disparu avec le décès du président Laurent Désiré Kabila.
Elle ne pouvait pas disparaître de cette façon-là. Moi, j'avais libéré mon argent et j'ai souffert pour retirer cet argent-là.
Il y avait en fait une très longue procédure qu'il fallait suivre.
Il fallait suivre cette procédure-là, mais...
Oh,
Albert Kalonji Sendula Mulopwe, président AI de la Fédération Congolaise de l'Or et du Diamant, rendons-nous au Sud Kivu où les propriétaires de 6 comptoirs miniers agréés et affiliés à la SEC ont pris la décision de suspendre leurs activités d'achat et d'exportation des matières précieuses. La dite décision sera mise en exécution à partir du 1er janvier 2009. Elle a été annoncée dans un communiqué de presse rendu public ce lundi 1er décembre dernier à Bukavu. Dans ce communiqué, ils évoquent plusieurs
plusieurs raisons qui les ont amenés à cette décision. Entre autres, des accusations selon lesquelles l'activité d'exportation minière alimenterait les guerres et rébellions, ainsi que le refus de la validation des licences d'exportation par la Banque commerciale congolaise, Astrid Mujinga.
Selon ce Mirabio, secrétaire permanent à l'AFEC, la décision des comptoirs de suspendre leurs activités est la conséquence des contraintes dont les hommes d'affaires du secteur minier sont victimes de la part des autorités de tutelle. Ceci en plus des accusations dont ils sont l'objet de la part de plusieurs rapports internationaux ainsi que de la presse. Monsieur Villadio.
Nous avons reçu la note circulaire de son excellence, monsieur le ministre des Mines. Il dit qu'il met fin à l'agrément des comptoirs. Il n'y aura plus d'exportation de minerais bruts. La communication nous est parvenue dans les 3 mois ici. Il faudrait donner le temps à l'opérateur économique qui s'inscrirait dans les domaine de la transformation, le temps d'acheter le matériel. Et ensuite, nous sommes à Bukavu. La transformation ici, c'est l'énergie. Alors qu'à Bukavu, nous n'avons pas de l'énergie, tant en quantité qu'en qualité. Avec la formation de tous ces éléments-là, nous trouvons que les opérateurs économiques vont avoir des ennuis terribles.
Le chef de division provinciale des mines trouve, quant à lui, que si les hommes d'affaires du secteur minier maintiennent leur décision, ce sera un grand manque à gagner, d'autant plus que 80% de l'économie du Sud-Kivu dépend de l'exploitation artisanale des minerais. Tembeze Yangusha.
Si on prive les creusers artisanaux à d'exploiter et de vendre artisanalement les minerais, ils vont se compléter pour aller au Rwanda, en Ouganda, à Bujumbura. Vous n'aurez pas résolu les problèmes.
Ces hommes d'affaires se sont également excusés auprès de la population, compte tenu du désagrément que leur décision va entraîner. Bukavu, Astrid Mujinga, Radio Okapi.
Réaction Albert Kalonji. Ma réaction ne pouvait qu'être des regrets. C'est pourquoi nous disons qu'il faut une expertise approfondie dans ces domaines. Les diamants, nous avons toujours demandé à ce qu'on crée un ministère des diamants. Il y a beaucoup d'enjeux. Cette façon-là de prendre une décision d'une façon cavalière, ça, les gens se sentiront toujours frustrés quelque part. Il faut savoir interpréter les moments. La pierre qu'on dit qu'elle entretient des conflits, des guerres, et là vous parlez des diamants de la guerre. Les diamants n'ont jamais fait la guerre, les diamants n'ont jamais été au front, les diamants n'ont jamais entretenu la guerre. Mais c'est plutôt les gens qui croient qu'il faut accéder vite à la pierre qui peut être facilement transportable, qui peut être facilement négociable, et tout de suite on a son argent qu'on peut mettre dans sa poche. Comme il y a le ministère du pétrole et le consort, il faut qu'il y ait un ministère spécifiquement du diamant. Sinon, on n'aura pas sorti du bout du tunnel. Vous le savez, les creuseurs artisanaux travaillent dans des conditions très difficiles, mais est-ce que vous, négociants, commerçants, vous faites pour leur permettre de se retrouver, d'avoir leur part? Bon, la genèse des tout diamants, quand nous parlons de secteur artisanal, c'est l'exploitant artisanal qui est la genèse. Donc, nous avons demandé, un, l'espace. Et nous ne cesserons jamais de demander tant que notre cri ne sera pas satisfait pour le creuseur, qui est la genèse de notre métier. C'est ce que nous pouvons faire. S'il y a des creuseurs, il y a des négociants à côté, puisque les gens travaillent toujours en équipe. Dans chaque groupe de creuseurs, c'est toujours un négociant de l'un ou de près. On ne peut pas faire la différence entre un creuseur et un négociant. Nous sommes l'un dans l'autre. Mais comment vous leur payez des salaires ou comment vous partagez les bénéfices avec ces creuseurs? Si, c'est ça. Nous nous sommes toujours battus puisque, vous savez, le système d'instauration des terres minières ne permet pas à nos confrères de se retrouver. Qu'est-ce qui se passe avec les terres minières? Nous avions demandé à ce qu'on abroge ce système-là d'octroi des terres minières. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, un creuseur peut être un salarié. Nous lui payons, à titre d'exemple, $100. Il exploite, il trouve une pierre de 10 carats qui vaut peut-être 30 000, 50 000 dollars. Et lui, hésite toujours à recevoir $100. Vous ne voyez pas que c'est l'exploitation de l'on parle? Mais si on revient dans le secteur artisanal dont nous encadrons, nous faisons un groupe avec le creuseur. C'est-à-dire, il y a un financier, il y a les exploitants. Donc le creuseur, proprement dit, qui utilise leurs forces musculaires. Quand le fruit revient de notre travail, nous prenons les dépenses, puisque les dépenses, nous les faisons en toute transparence. Nous mettons les dépenses de côté. Nous voyons maintenant le butin qui est arrivé. On divise le butin par le nombre de gens. Comme ça, tout le monde se retrouve. Voilà ce que nous nous demandons. Nous demandons à ce qu'on donne la chance à tout le monde de bénéficier de son sous-sol. Voilà.
Que répondez-vous à certaines personnes qui vous accusent, vous, exploitants miniers, commerçants, négociants, de vous être enrichi, par exemple, à Chicapa, à Mbujima et dans d'autres villes minières, mais ces villes-là ne se développent pas, sont délaissées, il n'y a pas d'infrastructure. Qu'est-ce que vous faites avec ce que vous gagnez?
Merci beaucoup. C'est pourquoi nous parlons de l'expertise congolaise. Il faut qu'il y ait un ministre du Diamant. Au temps du Moussi, il nous a responsabilisés. Il a dit, maintenant, allez-y. Nous avions prouvé de quoi nous étions capables. À Mbujimayi, nous avons fait beaucoup d'alors. À Chicapa, même. Personne ne peut me contredire.
Mais il y a des gens qui disent, par exemple, qu'Albert Kalonji à Chicapa n'a pas construit, n'a pas ceci, n'a pas cela. Et pourtant, c'est Chicapa qui vous a enrichi. Hein.
Bon, je vais vous dire une chose. Loin de moi de parler de mes biens privés. Mais puisque vous tournez toujours autour de la même question, je vais vous dire maintenant la réalisation sur le plan social et sur le plan régional, en fait. À Chicapa, nous avons eu à combattre des erosions qui menaçaient Chicapa. Nous avons mis aux environs de 200 000 dollars pour combattre une érosion. Les images ont été montrées partout ici. Et d'ailleurs, moi-même, je suis porteur d'un diplôme de constructeur. Nous avions acheté une vue pour l'administrateur du territoire de Chicapa. Notre trésorier général, Moukeba Jean-Pierre, qui est maintenant parlementaire, a construit une station ultra moderne à Chicapa. Et nous avions toujours des projets. Nous allions acheter des jeeps pour la police, pour les phares d'essai. On avait des projets, acheter même des motos pour nos policiers. On avait des projets comme ça. Donc, c'est pourquoi je vous dis, il faut qu'on responsabilise quelqu'un avant de les déconsidérer. En Mbujimayi, il y a eu des dons, des motos, des jeeps. Il y a eu même la construction du rond-point étoile qui fait maintenant la fierté de Mbujimayi. C'est conçu par l'un de nos membres, maison du Koloudian Sabat, Madima Dimba. Donc, c'était un coup de pouce puisque on nous a mis devant un fait. Montrez de quoi vous êtes capable.
Mais vous pouvez quand même faire plus.
Plus que ça.
Plus, beaucoup plus. Albert Kalonji, la crise financière, on en parlait déjà dans l'émission, la crise financière internationale se fait sentir dans la province du Katanga aussi. Certaines entreprises minières ont fermé, d'autres ont dégraissé leur personnel. Les restaurants sont aussi de moins en moins fréquentés à cause du départ de plusieurs opérateurs miniers. Les creuseurs artisanaux sont obligés de vendre leurs produits à des prix beaucoup plus bas, ce qui pousse nombreux parmi eux à quitter les carrières. Conséquence, la devise américaine devient rare sur le marché local. Pourtant, les prix des denrées de première nécessité sont stables. Les détails avec Jean Gandou.
De Kolwezi à Kakanda, passant par Likasi et Lubumbashi, la réalité est la même. Plusieurs centaines de travailleurs sont sans emploi. C'est le cas en Ville Mining, Boss Mining et Frontière Esperelle. Toutes ces personnes viennent gonfler les effectifs des chômeurs que sont ces anciens trésors artisanaux qui ont mis la clé sous le paillasson. Certains grands restaurateurs de Lubumbashi qui ont requis l'anonymat indiquent que tout tourne au ralenti. Les principaux clients parmi lesquels les opérateurs miniers ont disparu. Inquiet, l'intersyndicale du Katanga accuse les opérateurs économiques de profiter de cette situation pour procéder à des licenciements massifs et illégaux. Le gouvernorat a ainsi convoqué une réunion qui a mis face à face l'intersyndicale et la FEC Katanga. Pour les directeurs provinciaux de la Banque centrale du Congo, cette situation difficile que traversent les sociétés minières provoque une nette appréciation du dollar américain qu'il ne faut pas confondre avec une dépréciation du franc congolais. C'est pourquoi les prix sont restés stables sur le marché local. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Albert Kalonji, la crise financière internationale a fait perdre au diamant sa valeur.
Oui, mais ce n'est pas seulement le diamant, toute la matière première. En fait, pour votre gouvernement, je vous dis que nous sommes une fédération nationale qui est représentée à travers toute la République démocratique du Congo. Là aussi, au Katanga, dont nous venons d'entendre l'élément maintenant, nous avons aussi nos membres là-bas. Donc, toute la matière première est sanctionnée par cette crise monétaire, puisque vous savez, l'aboutissement de tous les volumes, les chambres de compensation et tout, c'est là-bas. Et quand là-bas il y a le problème, ça a des répercussions directes sur nous. Et c'est pourquoi nous disons, nous avons travaillé d'arrache-pied avec la Banque centrale. Comment pouvez-vous comprendre? On nous dit que les devises commencent à manquer, et ça va encore manquer de plus. Pourquoi? Nous avons la matière première. Pourquoi nous ne pouvons pas recycler notre argent dans ce secteur-là? Mais où est-ce que le franc congolais est recyclé pour avoir des devises? Nous avons fait un grand travail avec la Banque centrale. Est-ce que ces pays-ci peuvent manquer des devises? Ça, je m'inscris en faux. Au sein de la FECODI maintenant, nous avons même les exploitants artisanaux des matières semi-précieuses, dont le matière de Katanga et consorts. Nous nous disons que nous ne pouvons pas manquer des devises.
Donc, c'est un problème d'organisation au niveau de l'État.
Un problème d'organisation, surtout de la Banque centrale. Il faut que la Banque centrale sache recycler ses devises, puisque nous avons la matière première pour que nous ayons des devises. C'est pas difficile à faire ça. Nous allons travailler. Je mets au défi la Banque centrale. Nous allons travailler avec la Banque centrale. On a mis tout sur la table. Et ça a été accepté.
Nous allons clôturer cette émission, Albert Kalonji. Quel message pouvez-vous adresser à tous les exploitants des matières précieuses et semi-précieuses qui vous suivent en ce moment?
Qu'ils prennent courage. C'est un moment. Ça va passer. Nous pensons que, avec la situation qui va s'améliorer aux États-Unis, sera la répercussion sur notre situation. Qu'ils tiennent que la FECODI est là. Elle va toujours se promener pour faire entendre sa voix et que notre cause sera toujours défendue.
Albert Kalonji, merci d'être passé à Grand Témoin.
Merci beaucoup.
Grand Témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je recevais Albert Kalonji Sendula Molopoué, président de la Fédération Congolaise de l'Or et du Diamant, à la technique Guy Manzangou, à la présentation Alain Irung. Retrouvez cette émission sur le site de Radio Capi, www.radiocapi.net, où vous pouvez réécouter toutes les émissions de Grand Témoin.